Tamani, voici nos informations en français.
Mercredi 9 décembre 2020, il est 18h, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani, voici les titres de ce journal. La journée internationale de lutte contre la corruption a été célébrée ce mercredi 9 décembre 2020. Cette commémoration intervient au Mali à un moment où la société civile dénonce l'inefficacité des actions menées par les structures de lutte contre la corruption. Quelles sont les missions et priorités du Conseil national de la transition? Comment doit-il fonctionner? Et quel impact auront les contestations de la classe politique et du M5-RFP sur son travail? Des experts vous répondront à ces questions dans ce journal. Pendant ces temps, les attaques s'accentuent dans le cercle de Badjangara au centre du pays. Tôt ce matin, une attaque contre le village de Dunkombo a fait 5 morts et des portés disparus. À la présentation, Adama Madouaïdara. Bonsoir à tous et bienvenue. Le monde a célébré ce 9 décembre la journée internationale de lutte contre la corruption. Si le secrétaire général de l'ONU estime que ce phénomène cause encore dans le monde plus de préjudice, surtout en cette période de crise et de pandémie de COVID-19, ici au Mali, les organisations de la société civile dénoncent l'inefficacité des actions menées par les structures de lutte contre la corruption. Toutefois, les juristes invitent les autorités à exiger une obligation des résultats aux instituts chargés de lutter contre le phénomène. Moussa Mali Sissoko nous fait le point.
Pour la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, les malversations ont atteint au Mali un seuil important. Selon elle, les pertes et les répercussions négatives sur le budget de l'État se comptent en centaines de milliards. Pour Ahmed Sekou Diallo, un membre de cette coalition, il urge de juguler ce phénomène qui gangrène la société malienne pour préserver les générations futures.
Si vous regardez bien les rapports qui ont été produits, c'est des centaines de milliards de manque à gagner pour l'État malien. Donc, pour vous dire que la corruption est là, à tous les niveaux. Les actes qui sont posés aujourd'hui, on peut douter. Lance une alerte pour leur dire de voir vraiment les actes qu'ils posent. Il faut vraiment qu'ils inspirent la confiance à tous les niveaux.
Pourtant, certains experts, même si les priorités des autorités de la transition sont recentrées sur la sécurité des personnes et de leurs biens, la lutte contre la COVID-19, ils les exhortent à renforcer les capacités des magistrats ainsi que les structures en charge de lutte contre la corruption pour l'atteinte des résultats efficients. Docteur Alain Nyangali, universitaire et constitutionnaliste.
Il est bon quand même de renforcer les institutions qui interviennent dans la lutte contre la corruption et que qu'on leur exige une obligation de résultat. Il faut que tous rapports qui ont été déposés, en tout cas ces dernières années, que ces rapports soient vraiment mis en œuvre.
Il faut noter que toutes nos tentatives pour faire réagir l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI ont été vaines.
À Bamako, les débats sur la corruption divisent autant dans les milieux politiques et économiques. Si pour certains citoyens, l'exemplarité des dirigeants est indispensable pour lutter contre ce phénomène, d'autres par contre ajoutent que la lutte contre la pratique doit aller au-delà des discours et la multiplication des structures de contrôle. Ceux-ci recommandent plutôt des sanctions exemplaires. Écoutons leur réaction sur la question. Ils sont au micro de Aissata Diarra.
L'état de la corruption au Mali, c'est très grave parce que ça touche tous les secteurs au Mali. Mais la corruption aussi, c'est des deux côtés. Les autorités et la population. Le bureau du vérificateur, l'office de lutte contre l'enrichissement illicite, ces organes ne peuvent pas lutter contre la corruption. La corruption, pour lutter, ça, il faut aller en profondeur.
L'état de la corruption au Mali, ça augmente de plus en plus. Il y a une mauvaise gouvernance qui est là. Pour lutter contre la corruption, il faut avoir un esprit d'intérêt général.
C'est plus que la fois dernière.
Pour moi, rien à changer. On attend les actes concrets comme le président de la transition a dit.
La corruption au Mali n'a pas du tout affaibli. Au contraire, ça s'est étendu un peu partout. Pour y lutter, il faut l'implication de tous.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali a déposé cette semaine un nouveau préavis de grève de 5 jours. Selon les responsables de l'UNTM, le mouvement général sera suivi du lundi 14 au vendredi 18 décembre sur toute l'étendue du territoire national si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Le Conseil national de transition doit être l'incarnation du pouvoir législatif, même si ses membres n'ont pas été élus, expliquent des observateurs. Selon la charte, en plus plus du rôle de l'Assemblée nationale qu'il doit jouer pour aboutir à l'organisation des élections. Le CNT est également chargé du contrôle de l'action du gouvernement. Quelles sont donc les véritables missions du CNT? Comment doit-il fonctionner? Et les réponses dans ce reportage de Mamadou Samaseko.
Le Conseil national de transition fonctionnera comme une assemblée nationale conformément aux dispositions de la charte et de la constitution. C'est ce qu'explique Ali Tunkara, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Selon lui, le CNT sera bientôt doté d'un bureau et de commissions thématiques. Ali Tunkara.
Il y aura des commissions plutôt, mais pas le groupe parlementaire proprement dit, parce que quand on regarde quand même un peu, même si on n'est pas juriste, le statut d'une assemblée nationale, naturellement, ce sont les acteurs qui se réunissent en fonction d'obédience politique. Or, pour le cas précis du Conseil national pour la transition, nous avons des acteurs de tous bords.
Pourtant, l'efficacité de cet organe législatif est surtout attendue sur les missions contenues dans la charte de transition. Parmi ses priorités, des experts soulignent l'organisation des élections législatives et présidentielles crédibles. Balan Diakité, enseignant-chercheur.
La révision de la Constitution, la révision du Code électoral, la révision de la charte des partis politiques. Et aussi une autre question qui vient très souvent, c'est-à-dire le financement des partis politiques. Amener une refondation même de l'État à travers la restructuration de l'architecture institutionnelle de l'État.
Enfin, il faut noter que l'opérationnalisation des nouvelles régions, la réforme du système éducatif, l'application de l'accord de paix de 2015 et le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire sont également des priorités sur lesquelles le Conseil national de transition est attendu.
Pourtant, la légitimité de ce Conseil est toujours contestée par la classe politique et certains mouvements de la société civile, notamment le M5-RFP. Pour le porte-parole de ce regroupement, ce Conseil a été installé dans l'illégalité totale en violant la charte de la transition et les décrets qui fixent sa composition et les clés de répartition. Dr Shogel Kokalamega, membre du comité directeur et porte-parole du M5-RFP. Il est au micro de nos confrères de RFI.
Ce conseil a été installé dans l'illégalité totale en violant l'achat de la transition, en violant les décrets qui instituent composition et clé de répartition du Conseil national de transition. Même ces textes ont été violés. Les entités n'ont pas envoyé de nom. Les militaires ont appelé les personnes une à une. Dans ces conditions, on ne peut pas parler de large victoire. Il peut y avoir quelques militaires dans la gestion de l'État, mais la militarisation à outrance ne sert ni l'armée ni la société. Le M5 va rendre public dans les jours à venir, un document intitulé « Notre vision de la transition ». À cette occasion, toutes ces questions vont être traitées et exposées. Le M5 n'a pas désigné de personne et les personnes qui ont été désignées, soi-disant au nom du M5, n'ont pas envoyé de dossier. Leur nom s'est retrouvé sur cette liste-là, sans leur accord.
Sur un tout autre plan, 5 morts et déportés disparus, c'est le bilan d'une attaque perpétrée tôt ce matin dans la commune rurale de Dukombo, cercle de Badjangara, par des hommes armés non identifiés. Selon les autorités locales, depuis plus d'une semaine, des attaques sont récurrentes sur le tronçon Badjangara-Sévaré. Le maire de Dukombo déplore la non-réaction des autorités aux cris de détresse des populations de la zone. Bagoum Kassongé est joint au téléphone par Idrissa Sako.
Lié dans la commune rurale de Dukombo, cercle de Banyangara, plus précisément au pont de Songoga, ce matin vers 5h-6h. Effectivement, le bilan est très lourd. On parle de 5 morts plus des disparus. Bon, en fait, quand il y a eu l'attaque, ils sont arrivés. C'est les médecins après la mort. Ils sont venus que juste après l'attaque et après ils sont repartis. Et nous avons très longtemps alerté les autorités compétentes pour sécuriser les tronçons entre Sévaré jusqu'à Koro. On a donné toutes les informations et tout ce qui se passe. Et malgré tout ce qu'on a dit, à Douga, il n'y a pas eu de réponse ou une solution adéquate.
Les activités des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre sont presque inexistantes à Kenyeba. La plupart des populations sont au courant grâce aux informations véhiculées par les médias. Elles souhaitent plus d'engagement des acteurs dans le cercle de Kenyeba. Suivons ce reportage de notre envoyé spécial à Setou Kanté.
Depuis le 25 novembre dernier, les activités des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre ont démarré. À Kenyeba, aucune activité n'est en cours contre le phénomène, mais les femmes sont consciente des violences qu'elles subissent. Elles lancent un cri de cœur.
Non, je ne suis pas au courant de cela. Le vivre ensemble est difficile de nos jours. Dans le foyer, nous devons nous supporter pour assurer une bonne éducation à nos enfants. Les hommes devraient avoir pitié des femmes. Je pense que dans le couple, si on ne s'entend plus, le mieux c'est de se séparer.
Selon la présidente de la CAFO de Kenyeba, Djeneba Dansungu, la lutte contre le phénomène est complexe. Pour elle, la perception des VBG est difficile dans le milieu mandingue, d'où la difficulté.
Nous sensibilisons les femmes sur les VBG. Ici à la CAFO, nous n'avons rien prévu pour le moment, mais on s'informe. Nous sommes dans une zone aurifère. Les conditions de vie sont un peu difficiles sur les mines d'or. Le travail s'annonce alors difficile.
Malgré la difficulté, la CAFO de Kenyeba ne compte pas baisser les bras. Elle estime que tout sera mis en œuvre pour mener à bien cette lutte. Kenyeba, Assetou Kanté pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, les échos de nos régions, comment mieux prendre en compte les femmes et les jeunes dans les programmes de développement, c'est le thème de la revue annuelle du FAMOC qui se tient actuellement à Fana. Le FAMOC, c'est le Fonds d'appui aux moteurs de changement, un programme de la coopération de l'ambassade du Danemark. Toutes les structures qui bénéficient de ce programme dans Studio Tamani prennent part à cette revue annuelle qui s'achève le vendredi prochain. À Direi, le village de Kirchamba, chef-lieu de commune, est en alerte maximale. Une digue a lâché sous l'effet du niveau d'eau dans la nuit du 7 au 8 décembre 2020. Selon des sources locales, plusieurs habitations et des champs en phase de récolte ont été inondés. La situation se dégrade dans le village et une grande partie du village est menacée d'inondation. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine. Et vous pouvez réagir et réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321.